Welcome to the general.
Bienvenue à la réunion générale de la Société de secours de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes réunis ici au centre de conférence de Salt Lake City en Utah et en de nombreux endroits du monde. Le président Monson préside cette réunion et m'a demandé de la diriger. Je m'appelle Linda Kay Burton et je suis la présidente générale de la Société de secours. Nous avons le plaisir d'avoir le président Monson et ses conseillers, Henry B. Eyring, éditeur F. Urdorf, avec nous ce soir. Nous souhaitons la bienvenue à Neil L. Anderson du Collège des 12 Apôtres, Paul B. Piper du Collège des 70 et à Gary A. Stevenson, évêque président de l'Église. Mes conseillères, Carole M. Stephens et Linda S. Reeves, sont également sur l'estrade. Nous exprimons notre amour et notre reconnaissance au président général des jeunes filles de la primaire, ainsi qu'aux sœurs du bureau général de la Société de secours présentes à cette réunion. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux personnes qui assistent grâce à la télévision, aux satellites, à l'Internet et à d'autres moyens techniques. La musique de cette réunion sera interprétée par un chœur de sœurs jeunes adultes seules, des pieux de jeunes adultes seules de Salt Lake Bonneville, de Salt Lake Holiday et de Murray en Utah, sous la direction d'Emily Wadley, accompagnée à l'orgue par Linda Margetts. Le chœur et l'assemblée ouvriront cette session en chantant « Mettons de l'ardeur ». La prière d'ouverture sera faite par Maria Luisa Torres, qui fait partie du bureau général de la Société de secours.
Our dear Heavenly Father, we are
so nous te remercions de la possibilité que nous avons d'être réunis, nous qui sommes sœurs, à travers le monde et dans différentes circonstances. Nous te remercions de la technologie qui nous est disponible pour que beaucoup de sœurs du monde puissent entendre ce message. Nous te remercions pour notre prophète, Thomas S. Monson, et pour ses conseillers. pour les apôtres, les 70, et pour tous ceux qui ont œuvré pour que notre réunion et la conférence prochaine puissent se produire. Nous te demandons de les bénir. Nous te remercions pour notre présidence générale de la Société de secours. Nous te demandons de les fortifier pour qu'elles nous guident. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you for that.
Merci de ce cantique et de cette prière inspirée. Je vais maintenant avoir l'honneur de vous parler. Après mon discours, le chœur interprétera un arrangement de « Il envoya son fils » et « Jésus-Christ est mon modèle ». Carol M. Stephens, première conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, nous adressera ensuite la parole. Elle sera suivie de Linda S. Reeves, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours. Ensuite, le chœur et l'assemblée se lèveront et chanteront « Merveilleux l'amour ». Quand nous contractons nos alliances, les respectons et nous en réjouissons, c'est la preuve que l'expiation de Jésus-Christ est réellement écrite dans notre cœur. Mes sœurs bien-aimées, depuis des mois, mes pensées et mon cœur se tournent vers vous tandis que je médite sur cette lourde responsabilité. Pour l'instant, il me suffit de savoir que l'appel m'est venu du Seigneur par l'intermédiaire du prophète qui l'a choisi, même si je ne me sens pas à la hauteur de la tâche qui m'a été confiée. L'un des précieux dons qui accompagne cet appel est l'assurance que notre Père Céleste aime toutes ses filles. J'ai ressenti son amour pour chacune d'entre nous. Comme vous, j'aime les Écritures. Dans le livre de Jérémie se trouve une Écriture qui m'est très chère. Jérémie vivait à une époque et dans un endroit difficile, mais le Seigneur lui a permis de prédire une période d'espérance pendant le rassemblement d'Israël dans les derniers jours, à savoir notre époque. Jérémie prophétise « Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » Car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous sommes le peuple que Jérémie a vu. Avons-nous demandé au Seigneur d'écrire la loi ou la doctrine dans notre cœur? Croyons-nous que le pardon dont parle Jérémie, accessible grâce à l'expiation, s'applique à nous personnellement? Il y a quelques années, Jeffrey R. Holland a exprimé ses sentiments vis-à-vis de la foi profondément enracinée des pionniers qui continuent à avancer vers la vallée du lac Salé, en dépit de la mort de leurs enfants. Il a dit « Ils ne l'ont pas fait pour un programme ou pour une activité sociale. Ils l'ont fait parce que la foi de l'Évangile de Jésus-Christ était dans leur âme. Elle était dans la moelle de leurs os. » Ému, il a ajouté « C'est la seule façon dont ces mères pouvaient enterrer leur bébé, puis dire « La terre promise est là-bas. Nous réussirons à atteindre la vallée. » Si elles ont pu le dire, c'est grâce aux alliances, à la doctrine, à la foi, à la révélation et à l'esprit. Il a terminé par des propos qui font réfléchir. Si nous réussissons à garder cela dans nos familles et dans l'Église, beaucoup d'autres choses vont commencer à se régler d'elles-mêmes. Beaucoup d'autres choses moins nécessaires tomberont du chariot. Les charrettes à bras ne pouvaient contenir que peu de choses. Tout comme nos ancêtres ont dû choisir ce qu'ils prenaient, peut-être que le 21e siècle nous poussera à décider que pouvons-nous mettre dans cette charrette. Et c'est l'essentiel de notre âme, c'est ce qui se trouve dans la moelle de nos os. Ou en d'autres termes, c'est ce qui est écrit dans notre cœur. Notre nouvelle présidence de la Société de secours a diligemment invoqué le Seigneur pour savoir quelles étaient les choses essentielles qu'il souhaitait que nous mettions dans la charrette de la Société de secours afin de continuer à faire avancer son œuvre. Nous avons senti que notre Père Céleste souhaitait premièrement que nous aidions ses filles bien-aimées à comprendre la doctrine de l'expiation de Jésus-Christ. Nous savons que si nous le faisons, notre foi et notre désir de mener une vie juste grandiront. Deuxièmement, en songeant au besoin crucial de fortifier la famille et le foyer, nous avons senti que le Seigneur souhaitait que nous invitions ses filles bien-aimées à s'attacher joyeusement à leurs alliances. Lorsque les alliances sont respectées, la famille est fortifiée. Enfin, nous sentons qu'il souhaiterait que nous travaillions de concert avec les autres auxiliaires et avec nos dirigeants de la prêtrise pour rechercher et secourir les personnes qui ont besoin de progresser sur le chemin. C'est notre prière fervente que chacune de nous ouvre son cœur et permette au Seigneur d'y graver les points de doctrine de l'expiation, des alliances et de l'unité. Comment pouvons-nous espérer fortifier la famille et aider notre prochain si nous n'avons pas déjà écrit dans notre propre cœur une foi profonde et durable en Jésus-Christ et en son expiation infinie? Ce soir, je vais exposer trois principes de l'expiation qui, s'ils sont écrits dans notre cœur, feront croître notre foi en Jésus-Christ. J'espère qu'en comprenant ces principes, nous serons bénis, que nous soyons nouvellement membres de l'Église ou membres de longue date. Premier principe. Tout ce qui est injuste dans la vie peut être réparé par l'expiation de Jésus-Christ. Comme vous, nous témoignons de l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. Notre témoignage, tout comme le vôtre, a été écrit dans notre cœur tandis que nous affrontions un assortiment de difficultés et d'épreuves qui ont enrichi notre âme. Ces épreuves peuvent paraître injustes si nous ne comprenons pas le plan parfait du bonheur de notre Père Céleste et le rôle capital de l'expiation du Sauveur dans ce plan. Les épreuves de la vie n'épargnent aucune de nous, mais dans le cœur des fidèles est écrit « Tout ce qui est injuste dans la vie peut être réparé par l'expiation de Jésus-Christ ». Pourquoi le Seigneur permet-il que nous connaissions la souffrance et l'adversité dans cette vie? Tout simplement parce que cela fait partie du plan pour notre croissance et notre progression. Nous avons poussé des cris de joie lorsque nous avons appris que nous aurions la possibilité de venir sur Terre faire l'expérience de la condition mortelle. Dallin H. Oaks enseigne « Notre indispensable conversion se produit souvent plus vite dans la souffrance et l'adversité que dans le confort et la tranquillité ». L'exemple d'une pionnière fidèle illustre cette vérité. Marie-Louise Walker épousa John T. Morris à l'âge de 17 ans à Saint-Louis, au Missouri. Ils traversèrent les plaines avec les saints en 1853, arrivant à la vallée du lac Salé peu après leur premier anniversaire de mariage. Ils souffrirent des vicissitudes du voyage à l'égal des autres saints. Mais leur souffrance et leur adversité ne se terminèrent pas lorsqu'ils atteignirent la vallée du lac Salé. L'année suivante, Marie, alors âgée de 19 ans, écrivit « Un fils nous est né. Un soir, alors qu'il avait 2 ou 3 mois, quelque chose m'a murmuré « Tu vas perdre ce bébé ». Au cours de l'hiver, la santé du nourrisson a décliné. Nous fîmes tout ce qui était en notre pouvoir, mais l'état du bébé ne fit qu'empirer. Le 2 février, il mourut, et je dus boire à la coupe amère de la perte de ma propre chair et de mon propre sang. Mais ses épreuves n'étaient pas terminées. Son mari, lui aussi affligé, mourut 3 semaines après qu'elle eut perdu son bébé. Elle écrivit « Et je me trouvais, à peine sortie de l'adolescence, privée, en l'espace d'à peine 20 jours de mon mari et de mon seul enfant, en terre étrangère, à des milliers de kilomètres de ma famille de sang, avec une montagne de difficultés devant moi. Et je souhaitais moi aussi mourir et rejoindre mes êtres chers. » Elle poursuit « Un dimanche soir, je me promenais avec mon ami. L'absence de mon mari et l'oppressante solitude pesaient sur mon esprit. Et tandis que je pleurais avec amertume, je pouvais voir mentalement la colline abrupte de la vie que je devais gravir. Et j'en ressentais la réalité avec une grande force. Un profond désespoir s'installa en moi, car l'ennemi sait à quel moment nous attaquer. Mais notre Sauveur Jésus-Christ est puissant à sauver. Grâce à l'aide reçue du Père, je pus lutter contre toute la force qui semblait s'être déployée contre moi à ce moment-là. Marie a appris à 19 ans que l'expiation nous assure que tout ce qui paraît injuste dans cette vie peut être et sera réparé, même les chagrins les plus profonds. Deuxième principe, l'expiation détient le pouvoir habilitant de nous dépouiller de l'homme naturel ou de la femme naturelle et de faire de nous de vrais disciples de Jésus-Christ. Il existe un moyen de savoir si nous maîtrisons un point de doctrine ou un principe de l'Évangile. C'est lorsque nous sommes en mesure d'enseigner ce point de doctrine ou ce principe de telle façon qu'un enfant puisse le comprendre. Il y a une analogie qui se trouve dans une leçon de la primaire qui est un moyen précieux d'enseigner l'expiation aux enfants. Peut-être qu'elle peut nous aider à instruire nos propres enfants, petits-enfants ou amis d'autres confessions qui désirent comprendre ce point de doctrine essentiel. Une femme qui marche le long d'une route tombe dans un puits si profond qu'elle ne peut pas en sortir. Malgré ses efforts, elle n'arrive pas à sortir toute seule. Elle appelle au secours et se réjouit quand un brave passant l'entend et descend une échelle dans le puits. Cela permet à la femme de sortir du puits et de retrouver la liberté. Nous sommes comme la femme dans le puits. Péché, c'est comme tomber dans le puits et nous ne pouvons pas en sortir toutes seules. Tout comme le brave passant a entendu les appels au secours de la femme, notre Père Céleste a envoyé son Fils unique pour nous fournir le moyen de sortir. L'expiation de Jésus-Christ peut être comparée à l'échelle dans le puits. Elle nous donne la possibilité d'en sortir. Mais le Sauveur ne se contente pas de descendre l'échelle. Il descend dans la fosse et nous donne la possibilité d'utiliser l'échelle pour nous en échapper. Tout comme la femme dans le puits devait grimper à l'échelle, nous devons nous repentir de nos péchés, obéir aux principes de l'Évangile et respecter les ordonnances pour sortir de notre puits et permettre à l'expiation d'opérer dans notre vie. Ainsi, après tout ce que nous pouvons faire, l'expiation nous permet de devenir dignes de retourner dans la présence de notre Père Céleste. J'ai récemment eu l'occasion de rencontrer au Chili une pionnière moderne, une fille bien-aimée de Dieu nouvellement convertie à l'Église. Elle élève seule ses deux jeunes fils. Grâce au pouvoir de l'expiation, elle a réussi à tirer un trait sur son passé et s'efforce maintenant sincèrement de devenir une vraie disciple de Jésus-Christ. Quand je pense à elle, un principe que nous enseignait David Abénard me revient à l'esprit. C'est une chose de savoir que Jésus-Christ est venu sur terre afin de mourir pour nous. C'est essentiel et c'est le fondement même de la doctrine du Christ. Mais nous devons aussi nous rendre compte qu'au travers de son expiation et par le pouvoir du Saint-Esprit, le Seigneur désire vivre en nous et non seulement nous guider, mais aussi nous donner du pouvoir. Au cours de ma discussion avec cette sœur chilienne sur la manière de rester sur le chemin qui conduit à la vie éternelle, elle m'a affirmé avec enthousiasme qu'elle était déterminée à rester sur le chemin. Elle avait passé la majeure partie de sa vie hors de ce chemin et elle m'a dit qu'il n'y avait rien là-bas qui lui manquait. Le pouvoir habilitant de l'expiation vit en elle. Il est en train de s'écrire dans son cœur. Ce pouvoir nous permet non seulement de sortir du puits, mais aussi de continuer d'avancer sur le sentier étroit et resserré qui nous ramène dans la présence de notre Père Céleste. Troisième principe, l'expiation est la plus grande preuve que nous ayons de l'amour du Père pour ses enfants. Nous ferions bien de méditer sur cette pensée émouvante de Frère Hawkes. Imaginez la douleur de notre Père Céleste de devoir envoyer son Fils subir des souffrances incompréhensibles pour nos péchés. C'est la plus grande des preuves de son amour pour chacun de nous. Cet acte suprême d'amour devrait pousser chacune d'entre nous à s'agenouiller humblement en prière pour remercier notre Père Céleste de nous aimer suffisamment pour nous envoyer son Fils unique et parfait, souffrir pour nos péchés, nos peines et tout ce qui paraît injuste dans notre vie. Vous souvenez-vous de la femme dont a parlé récemment le président Orndorff? Il a dit, « Une femme qui avait traversé des années d'épreuves et de chagrin disait à travers ses larmes, « Je me suis aperçue que je suis comme un vieux billet de $20, chiffonné, déchiré, sale, maltraité, pleine de cicatrices, mais je suis toujours un billet de $20, j'ai une valeur. » Bien que je ne paye pas de mine et bien que j'ai été meurtrier usé, je vaux toujours la totalité des $20. Cette femme sait qu'elle est une fille bien-aimée de son Père Céleste et qu'elle est suffisamment précieuse à ses yeux pour qu'il envoie son Fils expier pour elle personnellement. Chaque sœur de l'Église doit savoir ce que c'est cette femme, qu'elle est une fille bien-aimée de Dieu. Comment le fait de connaître notre valeur à ses yeux change-t-il notre manière de respecter nos alliances? Comment le fait de connaître notre valeur à ses yeux influence-t-il notre désir de servir notre prochain? Comment le fait de connaître notre valeur à ses yeux accroît-il notre désir d'aider les personnes qui ont comme nous besoin de comprendre l'expiation plus en profondeur? Lorsque nous aurons la doctrine de l'expiation profondément écrite dans le cœur, alors nous commencerons à devenir le genre de personnes que le Seigneur veut que nous soyons lorsqu'il reviendra. Il confirmera que nous sommes ses vrais disciples. Puisse l'expiation de Jésus-Christ causer un grand changement dans notre cœur. Je promets qu'en nous éveillant à cette doctrine dont un ange de Dieu a dit qu'elle était la bonne nouvelle d'une grande joie, nous ressentirons ce que les sujets du roi Benjamin ont ressenti. Après avoir prié avec ferveur pour que l'expiation soit appliquée à leur vie, ils furent remplis de joie, et furent disposés à conclure l'alliance avec Dieu, de faire sa volonté et d'être obéissants à ses commandements dans tout ce qu'il leur commanderait. Quand nous contractons nos alliances, les respectons et nous en réjouissons, c'est la preuve que l'expiation de Jésus-Christ est réellement écrite dans notre cœur. Sœurs, s'il vous plaît, souvenez-vous de ces trois principes. Tout ce qui est injuste dans la vie peut être réparé par l'expiation de Jésus-Christ. L'expiation détient le pouvoir habilitant de nous dépouiller de l'homme naturel ou de la femme naturelle et de faire de nous de vrais disciples de Jésus-Christ. L'expiation est la plus grande preuve que nous ayons de l'amour du Père pour ses enfants. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. J'invite chacune d'entre nous à demander au Seigneur d'écrire ces principes de l'expiation dans son cœur. Je témoigne qu'ils sont vrais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Suite à mon appel à la présidence générale de la Société de secours, j'ai éprouvé le désir d'en savoir davantage sur les femmes qui, avant moi, avaient servi à cet appel. J'ai été impressionnée par les enseignements de Zina Day Young, première conseillère dans la seconde présidence générale de la Société de secours. Elle a dit « Sœur, il faut que nous nous éveillions totalement à nos devoirs. » J'ai médité sur les mots « éveiller » et « devoir » et j'ai fait des recherches supplémentaires dans les Écritures. Dans le Nouveau Testament, Paul enseigne au sein de son époque « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous. » La nuit est avancée, le jour approche, revêtons les armes de la lumière. Dans le livre de Mormon, Alma enseigne à son peuple les devoirs sacrés des personnes qui contractent une alliance avec Dieu. Puisque vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu et être appelé son peuple et être disposé à porter les fardeaux les uns des autres afin qu'ils soient légers, oui, et être disposé à pleurer avec ceux qui pleurent, oui, et à consoler ceux qui ont besoin de consolation, et à être les témoins de Dieu en tout temps, et en toutes choses, et dans tous les lieux. Or, je vous le dis, si c'est là le désir de votre cœur, qu'avez-vous qui vous empêche d'être baptisé au nom du Seigneur, en témoignage devant lui, que vous avez conclu avec lui l'alliance de le servir et de garder ses commandements, afin qu'il déverse plus abondamment son esprit sur vous. Et alors, lorsque le peuple eut entendu ces paroles, il battit des mains de joie et s'exclama. C'est là le désir de notre cœur. La déclaration de Sœur Young et ses écritures m'ont poussé à songer aux devoirs auxquels nous devons nous éveiller de nos jours. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous contractons une alliance. Robert Dales enseigne. Quand nous faisons des alliances et que nous les respectons, nous sortons du monde et entrons dans le royaume de Dieu. Nous sommes changés. Notre aspect est différent et nos actions sont différentes. Ce que nous écoutons, ce que nous lisons, ce que nous disons est différent. Et les vêtements que nous portons sont différents parce que nous sommes devenus filles de Dieu, liées à lui par alliance. Lors de notre confirmation, nous recevons le don du Saint-Esprit, le droit à l'influence constante d'un membre de la divinité pour nous guider, nous réconforter et nous protéger. Il nous met en garde lorsque nous sommes tentés de nous éloigner de nos alliances et de retourner dans le monde. Le président Packer enseigne qu'aucun de nous ne commettra jamais de faute grave sans avoir d'abord été averti par les murmures du Saint-Esprit. Nous devons être dignes et surveiller avec vigilance l'état de notre cœur pour recevoir ce don et avoir toujours l'esprit avec nous. Est-ce que notre cœur est tendre? Est-ce que notre cœur est humble, réceptif et doux? Ou bien est-ce que notre cœur s'est peu à peu endurci parce que nous avons laissé trop de bruit du monde nous empêcher d'entendre les murmures légers de l'esprit qui nous sont certainement parvenus? Lorsque nous nous sommes fait baptiser, notre cœur a été changé et nous nous sommes éveillés à Dieu. Au fil de notre voyage dans la condition mortelle, nous devons nous demander régulièrement. Si j'ai éprouvé un changement de cœur, est-ce que je le ressens maintenant? Et sinon alors, pourquoi pas? Parmi les premiers saints, beaucoup éprouvèrent ce grand changement dans leur cœur. Cela les éveilla au besoin de recevoir les bénédictions du temple qui les ont fortifiés dans leurs devoirs. Les saints de Nauvoo vinrent au temple toute la journée et jusque tard dans la nuit afin de recevoir les ordonnances et de contracter des alliances avant d'entamer leur voyage vers l'ouest. Sarah Rich, sœur de la Société de secours de Nauvoo, dit « Nous y avions reçu de nombreuses bénédictions dans la maison du Seigneur, ce qui a été pour nous une source de joie et de réconfort au milieu de nos chagrins. Et nous a permis d'avoir foi en Dieu, sachant qu'il nous guiderait et nous soutiendrait pendant le voyage dans l'inconnu qui nous attendait. Le cœur changé par la foi au Sauveur et s'appuyant sur le pouvoir de son expiation, ils s'éveillèrent à la nécessité d'agir. Ils sentaient profondément dans leur cœur que quelqu'un, le Sauveur, comprenait leur adversité personnelle, parce qu'il l'avait enduré pour eux dans le jardin de Gethsémané. Il ressentait leurs craintes, leurs doutes, leurs douleurs et leur solitude. Il avait souffert leur chagrin, leur persécution, leur foi, leur fatigue et leur perte. Et comme il avait souffert toutes ces choses, il pouvait leur dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et ils vinrent. Ils firent confiance au prophète et le suivirent. Ils savaient que le voyage serait long, leur devoir difficile. Ils savaient que des sacrifices seraient requis, mais soutenus par leur foi, attachés à leurs alliances, ils étaient préparés spirituellement. Avant de quitter Nauvoo, un groupe de saints écrivait un message dans la grande salle de réunion du temple qu'ils étaient forcés d'abandonner. On y lisait « Le Seigneur a vu notre sacrifice. Suivez-nous. » J'ai récemment participé à une longue marche pionnière avec les jeunes gens et les jeunes filles de notre paroisse. Chaque matin, je me demandais « Quel est mon sacrifice ? Comment est-ce que je suis les pionniers ?» Le deuxième jour de marche, nous avons tiré nos charrettes à bras pendant près de 13 kilomètres et il nous en restait plus de 10 quand nous sommes arrivés à un endroit de la piste nommé « le Tour des femmes ». Les hommes et les femmes se sont séparés. Les hommes ont été envoyés en haut de la colline. Lorsque nous avons commencé à monter en tirant les charrettes à bras, j'ai levé les yeux pour voir nos frères dans la prêtrise, jeunes et vieux, des deux côtés de la piste, chapeau bas, en hommage aux femmes. L'ascension était facile au début, mais nous nous sommes vite enlisés profondément dans le sable, et la montée est devenue plus rude. Tête baissée, je poussais de toutes mes forces quand j'ai senti une poussée sur la charrette. J'ai levé les yeux et j'ai vu Lexi, l'une de nos jeunes filles et ma voisine. Elle avait tiré sa charrette jusqu'au sommet et, voyant notre difficulté, avait accouru. Une fois que nous avons atteint le sommet, je voulais tant courir aider celles qui me suivaient, mais je respirais péniblement et mon cœur battait tellement fort que les mots « crise cardiaque » m'ont plus d'une fois effleuré l'esprit. Je regardais avec reconnaissance d'autres jeunes filles déposer leur charrette et courir aider. Une fois que tout le monde est arrivé au sommet, nous avons pris un moment pour consigner nos pensées dans nos journaux intimes. J'ai écrit « Je ne me suis pas assez bien préparée physiquement pour avoir la force d'aider celles qui me suivaient. Je ne tirerai probablement plus jamais de charrette à bras de ma vie, mais jamais, au grand jamais, je ne veux décevoir mes sœurs spirituellement. » C'est une expérience sacrée qui m'a éveillée spirituellement à mes devoirs envers ma famille et mon prochain. Pendant tout notre voyage, j'ai réfléchi à ce que j'avais appris. D'abord, j'ai pensé à mes sœurs, celles qui ont tiré et celles qui continuent aujourd'hui à tirer seules leurs charrettes. Environ 20% des femmes de ces convois de charrettes à bras étaient seules, au moins pour une partie du chemin. Certaines ne s'étaient pas mariées, d'autres étaient divorcées ou veuves. Beaucoup étaient des mères sœurs. Elles tiraient toutes ensemble, filles de l'Alliance, jeunes et moins jeunes, à des étapes différentes de leur vie, sur le même chemin, avec le même objectif. Celles qui avaient couru aider les sœurs dans le besoin me faisaient penser aux sauveteurs, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, rapides à observer, à constater un besoin et à agir. J'ai pensé aux paroles du Seigneur. J'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Sur les deux côtés de la piste se tenaient des hommes fidèles, obéissants, respectueux de leurs alliances. Leur pouvoir de la prêtrise, le pouvoir que Dieu utilise pour bénir tous ses enfants, nous édifiait, nous fortifiait, nous soutenait. Ils étaient le rappel que nous ne sommes jamais seuls. Nous pouvons toujours avoir ce pouvoir avec nous si nous respectons nos alliances. J'ai pensé aux hommes qui avaient été séparés de leur famille pendant le voyage, la laissant seule à tirer la charrette. Beaucoup d'hommes étaient morts en chemin. Certains fils étaient restés en arrière pour faire une mission dans leur pays d'origine. D'autres avaient émigré plus tôt pour préparer l'arrivée de leur famille dans la vallée du lac Salé. Certains hommes avaient décidé de ne pas participer, ayant choisi de ne pas respecter leurs alliances. Comme les femmes d'autrefois, beaucoup aujourd'hui vivent des situations qui ne sont pas idéales. Nous continuons à enseigner l'idéal et à nous efforcer de l'atteindre parce que nous savons que l'effort constant que nous faisons nous permet d'avancer sur le chemin et nous prépare à recevoir à l'avenir toutes les bénédictions promises à celles qui se confient en l'Éternel. Chacune de nous a connu et continuera de connaître l'adversité. Cette condition mortelle est un temps de mise à l'épreuve et nous aurons toujours la possibilité d'utiliser notre libre arbitre pour choisir ce que nous allons retirer de l'adversité qui viendra certainement. Les filles de Dieu continuent d'avancer sur le chemin de la foi parce qu'elles sont conscientes que, comme l'a enseigné le président Monson, les ordonnances salvatrices du Temple qui nous permettent de retourner un jour auprès de notre Père Céleste dans les liens d'une famille éternelle et d'être dotées des bénédictions et du pouvoir d'en haut valent tous les sacrifices et tous les efforts. Il ne suffit pas d'être du voyage. Nous devons nous éveiller à notre devoir et continuer d'avancer avec foi, tout en puisant dans le pouvoir consolateur, fortifiant, habilitant et guérisseur de l'expiation. Sœurs, je vous aime. Je ne connais pas beaucoup d'entre vous personnellement, mais je sais qui vous êtes. Nous sommes les filles de son royaume qui respectons nos alliances et dotées de pouvoir grâce à elles. Nous sommes préparées pour faire notre devoir. La société de secours prépare les femmes aux bénédictions de la vie éternelle en les éveillant spirituellement aux besoins d'accroître leur foi et leur justice personnelle. Commençons par nous-mêmes. Commençons là où nous en sommes. Commençons aujourd'hui. Si nous sommes éveillés spirituellement, nous serons davantage en mesure de fortifier la famille et le foyer et d'aider notre prochain. C'est l'œuvre de salut et le pouvoir fortifiant et habilitant de l'expiation rend cela possible. Éveillons-nous à notre identité, éveillons-nous à notre devoir. Nous sommes les filles de notre Père Céleste qui nous aime. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Au fil de nos rencontres avec les sœurs du monde entier, nous sommes impressionnés par la force de votre témoignage. Tant parmi vous sont membres de l'Église de première ou de deuxième génération. Nous voyons de nombreuses sœurs assumer plusieurs appels, faire de longs trajets pour aller à l'Église et faire des sacrifices pour contracter et respecter les alliances sacrées du Temple. Nous vous rendons hommage. Vous êtes les pionnières modernes du Seigneur. Récemment, mon mari et moi-même avons rencontré une guide bénévole pendant que nous visitions un musée en Australie. Nous avons appris que Molly, une charmante septuagénaire, n'a pas d'enfant et ne s'est jamais mariée. Elle est fille unique et ses parents sont décédés depuis de nombreuses années. Les membres de sa parenté les plus proches sont deux cousins qui habitent un autre continent. Soudain, j'ai été submergée par le témoignage de l'Esprit, presque comme si notre Père Céleste lui-même disait « Molly n'est pas seule. Molly est ma fille. Je suis son père. C'est une fille très importante de ma famille et elle n'est jamais seule. » L'une de mes histoires préférées de la vie du Sauveur est celle de Lazare. Les Écritures nous disent que Jésus aimait Marthe, sa sœur Marie et leur frère Lazare. On envoya dire à Jésus que Lazare était très malade, mais il ne vint pas immédiatement. Il resta absent encore 2 jours et dit « Cette maladie est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Apprenant que Jésus arrivait, Marthe alla au-devant de lui raconter ce qui s'était passé. Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Endeuillée, Martha courut chez elle dire à Marie que le Seigneur était arrivé. Écrasée de chagrin, Marie courut vers Jésus, tomba à ses pieds et pleura. On nous dit que Jésus, la voyant pleurer, frémit en son esprit et fut tout ému. Il demanda où l'avait mis. « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Nous lisons ensuite les paroles les plus compatissantes et les plus aimantes des Écritures. Jésus pleura. L'apôtre James E. Talmage a écrit « La vue des deux femmes, remplies de chagrin, attrista Jésus de sorte qu'il frémit en son esprit et fut tout ému. » Cette expérience témoigne de la compassion, de la sollicitude et de l'amour de notre Sauveur et de notre Père Céleste pour chacune de nous, chaque fois que nous sommes accablés par l'angoisse, le péché, l'adversité et les chagrins de la vie. Chères sœurs, notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ nous connaissent et nous aiment. Ils savent quand nous souffrons d'une quelconque manière. Ils ne disent pas « Ce n'est pas grave si tu souffres maintenant, parce que bientôt tout ira bien. Tu vas guérir, ou ton mari va trouver un emploi, ou ton enfant égaré va revenir. » Ils ressentent la profondeur de notre souffrance et nous pouvons ressentir leur amour et leur compassion pour notre souffrance. Alma témoigne, et il ira, subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. Et cela pour que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Et il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, afin qu'il sache comment secourir son peuple selon ses infirmités. Lorsque nous nous demandons si nous sommes connus de notre Sauveur et de notre Père Céleste, ou bien à quel point ils nous connaissent personnellement, nous ferions bien de nous souvenir des paroles que le Sauveur adressa à Oliver Cowdery. Si tu désires un autre témoignage, reporte-toi à la nuit où tu m'as invoqué dans ton cœur, afin de connaître la vérité de tout ceci. Plus tôt, le Sauveur avait déclaré, « Il n'y a personne d'autre que Dieu qui connaisse tes pensées et les intentions de ton cœur. » Le Sauveur rappela à Oliver qu'il connaissait chaque détail de sa supplique et se souvenait du moment précis de la nuit exacte. Il y a de nombreuses années, mon mari est tombé gravement malade, victime d'une maladie rare. Au fil des semaines, il était de plus en plus malade et j'étais de plus en plus convaincue qu'il allait mourir. Je n'ai fait part de mes craintes à personne. Nous avions plusieurs jeunes enfants et notre mariage éternel était empreint d'amour. La pensée de perdre mon mari et d'élever seul nos enfants me remplissait de solitude, de désespoir et même de colère. J'ai honte d'avouer que je me suis éloignée de mon Père Céleste. Pendant des jours, j'ai cessé de prier, j'ai cessé de m'organiser, j'ai pleuré. J'ai fini par comprendre que je ne pouvais pas y arriver seule. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis agenouillée et j'ai épanché mon âme à mon Père Céleste, le suppliant de me pardonner de m'être détournée de lui, lui exprimant mes sentiments les plus intimes et finalement m'écriant que si c'était réellement ce qu'il voulait que je fasse, je le ferais. Je savais qu'il devait avoir un dessein pour nous. Comme je continuais à genoux, à m'épancher, les sentiments les plus doux, les plus paisibles, les plus aimants m'ont envahi. C'était comme si une couverture d'amour m'enveloppait. J'ai eu l'impression d'entendre notre Père Céleste dire « C'est tout ce que je voulais savoir ». Je me suis engagée à ne plus jamais m'éloigner de lui. Petit à petit, étonnamment, mon mari a commencé à aller mieux et a fini par guérir complètement. Des années plus tard, mon mari et moi étions agenouillés auprès de notre fille de 17 ans, suppliant que sa vie soit épargnée. Cette fois-ci, la réponse a été non. Mais le même sentiment d'amour et de paix que notre Sauveur a promis était tout aussi fort. Et nous avons su qu'en dépit du fait que notre Père Céleste l'a rappelé auprès de lui, tout irait bien. Nous avons appris ce que signifie déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur, savoir qu'il nous connaît, nous aime et prouve de la compassion pour nous lorsque nous sommes dans le chagrin ou la douleur. L'un des plus beaux moments du livre de Mormon entre un père et son fils est le témoignage d'Alma le jeune à son fils et l'amant. Alma décrit l'horreur inexprimable qu'il a ressentie en s'imaginant arriver en présence de Dieu afin d'être jugé pour ses nombreuses transgressions. Après avoir éprouvé le poids de tous ses péchés pendant 3 jours et 3 nuits, il se repent et plaide avec le Sauveur pour obtenir sa miséricorde. Il décrit à Elaman la joie sublime et douce de ne plus se souvenir de ses péchés. Au lieu de ressentir une horreur inexprimable à la pensée de se retrouver devant le trône de Dieu, Alma a une vision de Dieu assis sur son trône et déclare « Mon âme aspirait à être là-bas ». N'est-ce pas ce que nous éprouvons, mes chères sœurs, quand nous nous repentons et méditons sur l'amour, la miséricorde et la gratitude que nous ressentons pour notre Père Céleste et notre Sauveur? Nous aussi, nous aspirons à être là-bas, à nous blottir de nouveau dans leurs bras aimants. Tout comme le Seigneur m'a témoigné qu'il n'a pas oublié sa précieuse fille Molly, je témoigne qu'il ne vous a pas oublié. Quel que soit le péché ou la faiblesse que vous avez, quelle que soit l'épreuve ou la difficulté que vous traversez, il connaît et comprend ces instants. Il vous aime et il vous portera pour vous faire franchir ces moments comme il l'a fait pour Marie et Marthe. Il a payé le prix pour savoir comment vous secourir. Déposez vos fardeaux à ses pieds. Dites à votre Père Céleste ce que vous éprouvez. Parlez-lui de votre peine, de vos afflictions et ensuite confiez-les-lui. Sondez les Écritures quotidiennement, vous y puiserez beaucoup de réconfort et de soutien. Notre Sauveur a demandé, car une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Je t'ai gravé sur mes mains. J'ai commandé qu'aucun de vous ne s'en aille, mais j'ai plutôt commandé que vous veniez à moi afin de toucher et de voir. Ainsi agirez-vous envers le monde. Voilà notre responsabilité. Nous devons toucher et voir par nous-mêmes et aider tous les enfants de notre Père Céleste à toucher et à voir et à savoir que notre Sauveur a pris sur lui non seulement tous nos péchés, mais aussi nos douleurs, nos souffrances, nos afflictions, afin de savoir ce que nous éprouvons et comment nous réconforter. Je témoigne de lui au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous remercions le chœur et tous les autres participants, ainsi que les personnes qui ont contribué à la préparation de cette réunion spéciale. Nous exprimons à chacun notre amour et notre reconnaissance pour votre présence ce soir. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Henry Biering, premier conseiller dans la première présidence. Après son discours, le chœur chantera « Oh, j'ai besoin de toi ». Ensuite, Melinda Barlow, qui fait partie du bureau général de la Société de secours, fera la prière de clôture. Président Eyring.
Je suis reconnaissant d'être avec vous ce soir. les femmes de l'Église de Jésus-Christ sont occupées à devenir la société de sœurs, décrite par Lucy Mack Smith, la mère de Joseph Smith, le prophète, en ces termes. Je cite, « Nous devons nous chérir les unes les autres, veiller les unes sur les autres, nous consoler les unes les autres et nous instruire afin de pouvoir toutes siéger ensemble dans les cieux. » Cette description remarquable des qualités requises pour se retrouver avec Dieu dans un état de bonheur comporte trois aspects. Le premier consiste à se soucier les unes des autres. Le second est de s'instruire les uns les autres. Le troisième est de siéger ensemble avec Dieu. Mon but ce soir est de vous aider à ressentir les louanges et la reconnaissance de Dieu pour ce que vous avez déjà fait pour vous aider les unes les autres à atteindre ce but élevé. Et deuxièmement, il est de décrire en partie ce qui est encore à venir dans votre service unifié. À l'instar des sœurs d'une époque antérieure, vous avez répondu à l'appel du Seigneur à vous porter au secours des autres. En 1856, Brigham Young, le prophète, a demandé aux saints de se porter au secours des pionniers équipés de charrettes à bras qui étaient coincés dans les montagnes enneigées. Face à ce besoin, il a dit aux membres assemblés en conférence générale, « Votre foi, votre religion et votre profession de foi ne sauveront pas une seule de vos âmes dans le royaume céleste de notre Dieu si vous n'appliquez pas les principes que je vous enseigne maintenant. Allez chercher ces gens qui sont maintenant dans les plaines et faites avec exactitude ces choses que l'on appelle temporelles. Sinon, votre foi aura été vaine. » Fin de citation. Les femmes d'Utah ont répondu par centaines. Malgré leur pauvreté, elles ont rempli des chariots avec tout ce dont elles pouvaient se dispenser et tout ce qu'elles pouvaient recueillir auprès d'autres personnes pour réconforter les gens qui étaient dans la détresse. Une de ses sœurs vaillantes a déclaré, « Je n'ai jamais eu plus de satisfaction et, pourrais-je dire, de plaisir dans tous les travaux que j'ai accomplis dans ma vie. Tellement nous nous sentions unis. » Fin de citation. Une fois le sauvetage accompli et la neige fondue, cette même sœur a consigné cette question émanant d'un cœur plein de foi. Qu'y a-t-il ensuite à faire pour des mains bien disposées? De nos jours, des groupes de sœurs vaillantes dans le monde entier traduisent leur foi en action dans des centaines d'endroits. Dans leur cœur et leur prière, elles posent cette même question concernant l'avenir de leur vie de service. Chacune d'entre vous se trouve à un endroit unique de son voyage vers la vie éternelle. Il y en a qui ont des années d'expérience et d'autres n'en sont qu'au début de leur vie de disciple dans la condition mortelle. Chacune a une histoire personnelle et des difficultés qui lui sont propres, mais toutes vous êtes des sœurs et des filles bien-aimées de notre Père Céleste qui connaît chacune d'entre vous et qui veille sur chacune. Ce que vous avez fait remarquablement bien ensemble est de vous chérir les unes les autres, de veiller les unes sur les autres et de vous réconforter les unes les autres. J'ai été témoin de ce triple miracle il y a seulement un mois à travers le service que vous avez rendu à une sœur. Étant son père, je vous remercie. Et je désire remercier Dieu qui a guidé une instructrice visiteuse. Notre fille, Elisabeth, qui vit dans un état et un fuseau horaire différent des nôtres, était chez elle avec sa fille de 3 ans. Son autre enfant était à la maternelle où elle passait sa première semaine. Élisabeth est enceinte de 6 mois, attendant avec impatience la naissance de son 3e enfant, dont les médecins avaient dit que ce serait encore une fille. Son mari Joshua était sur son lieu de travail. Quand elle s'est rendue compte qu'elle perdait du sang et que la perte devenait importante, elle a téléphoné à son mari. Il lui a dit d'appeler une ambulance et qu'il la retrouverait à l'hôpital, qui se trouvait à 25 minutes de chez eux. Avant même qu'elle ait pu téléphoner, elle a entendu frapper à la porte. Elle a eu la surprise de trouver à la porte sa compagne de visite d'enseignement. Elle n'avait pas rendez-vous ce matin-là. La sœur avait tout simplement senti qu'elle devrait passer voir Élisabeth. Elle l'a aidée à monter dans la voiture. Elles sont arrivées à l'hôpital quelques minutes avant que Joshua arrive de son travail. Les médecins ont décidé en moins de 20 minutes de recourir à une intervention chirurgicale pour sauver Élisabeth et son bébé. Une petite fille est ainsi venue au monde, criant bruyamment, 15 semaines avant terme. Elle pesait 765 grammes. Mais elle était en vie. Et Élisabeth aussi. Les paroles de Lucy Mack Smith se sont en partie accomplies ce jour-là. Une sœur fidèle de la société de secours, inspirée par le Saint-Esprit, a veillé sur sa sœur en Dieu, l'a chérie et l'a réconfortée. Elle et les dizaines de milliers d'autres personnes qui ont rendu ce genre de service inspiré au cours des générations ne reçoivent pas seulement les remerciements de ceux qu'elles ont aidés et de leurs proches, mais aussi ceux du Seigneur. Vous vous rappelez ces paroles de reconnaissance à ceux qui reçoivent peu de reconnaissance pour leur bienveillance. Je cite, « Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Mais le miracle d'une sœur de la société de secours arrivant à point nommé pour aider est multiplié grâce au pouvoir d'une société unifiée de sœurs. Voici une partie du message que l'évêque d'Élisabeth leur a envoyé à son mari et à elle, son mari Joshua, à l'hôpital, quelques heures après la naissance du bébé. Je cite le message de l'évêque. La présidente de la société de secours contrôle la situation. Nous sommes déjà occupés à faire des plans pour nous occuper de vos filles à la maison, afin qu'Élisabeth puisse faire les déplacements à l'hôpital tant que le joli bébé sans nom y restera. Nous l'avons déjà fait par le passé, sur de longues périodes, et nos gens sautent sur l'occasion. L'évêque a poursuivi, parlant de lui-même et des frères, « Nous sommes même allés à l'hôpital pour garder des enfants dans la salle de jeu quand leur mère ne voulait pas les laisser ailleurs. Bien évidemment, nous ne mettrons pas notre plan à exécution, si ce n'est avec votre accord et en coordonnant les choses avec vous. » Nous voulions juste vous dire de ne pas vous inquiéter des choses dont nous pouvons nous occuper. Ce qu'ils ont fait pour ma fille lui a permis d'avoir un moment précieux lorsqu'elle a tenu sa petite fille pour la première fois. Puis l'évêque a conclu son message à Joshua et Élisabeth par un message que les sœurs s'adressent par leur engagement de servir les autres pour le maître dans le monde entier. Gardez la foi. Bien que vous ayez des situations personnelles et des expériences très variées, je peux vous dire quelque chose de ce qui vous attend. En gardant la foi, vous vous apercevrez que vous recevrez souvent une invitation du Seigneur à servir quelqu'un qui est dans le besoin, alors que cela tombe au mauvais moment. Il pourra sembler qu'il s'agit d'une tâche désagréable, voire impossible. Quand l'appel viendra, il pourra sembler que l'on n'a pas besoin de vous, ou que quelqu'un d'autre pourrait apporter l'aide. Lorsque le Seigneur vous permet de rencontrer une personne en détresse, souvenez-vous que nous rendons hommage au bon Samaritain autant pour ce qu'il n'a pas fait que pour ce qu'il a fait. Il n'a pas changé de trottoir. Bien que le voyageur battu sur son chemin était un étranger et peut-être un ennemi, il a fait ce qu'il pouvait pour l'homme battu. Puis il a élaboré un plan précis pour que d'autres personnes fassent davantage. Il a fait cela parce qu'il comprenait qu'aider peut demander plus que ce qu'une seule personne peut faire. Les leçons de cette histoire peuvent être un guide pour vous dans les situations à venir, quelles que soient. Ces mêmes leçons étaient là dans votre propre enfance et dans des expériences récentes. Une fois au moins, et peut-être souvent, vous avez été surprise de rencontrer quelqu'un qui avait besoin d'attention. C'était peut-être un de vos parents ou grands-parents, ou un enfant, un frère ou une sœur frappé par la maladie ou par un handicap. Vos sentiments de compassion l'ont emporté sur vos désirs humains. Vous avez donc commencé à offrir votre aide. Comme pour le voyageur de l'histoire du bon Samaritain, il est vraisemblable que l'aide requise a débouché sur des soins plus durables que ce que vous pouviez offrir seul. Le Samaritain a dû confier le voyageur aux soins de l'hôtelier. Le plan du Seigneur pour servir les autres dans le besoin comporte des équipes. Les évêques et les présidents de la société de secours invitent toujours les membres de la famille à s'aider mutuellement quand il y a un besoin. De nombreuses raisons justifient ce principe. C'est avant tout pour offrir à plus de personnes la bénédiction d'avoir cet accroissement d'amour qu'apporte le service réciproque. Vous avez observé et ressenti cette bénédiction. Quand vous vous êtes occupé d'une personne, même momentanément, vous avez éprouvé de l'amour pour elle après l'avoir servie. Quand on apporte des soins sur une période prolongée, les sentiments d'amour ont tendance à s'intensifier. Étant donné que nous sommes mortels, l'accroissement d'amour peut être interrompu par des sentiments de frustration et de fatigue. C'est aussi pour cette raison que le Seigneur nous permet de recevoir l'aide d'autres personnes dans notre service aux nécessiteux. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a créé des sociétés de donneurs de soins. Il y a quelques semaines, j'ai assisté à une réunion de Sainte-Seine, au cours de laquelle une jeune femme s'est levée pour être soutenue comme coordinatrice adjointe des visites d'enseignement. Je ne savais pas que cette position existait. Je me suis demandé si elle savait quel honneur le Seigneur lui avait fait. À cause d'un enfant agité, elle a dû quitter la réunion avant que j'aie pu lui dire combien le Seigneur l'aimerait et lui serait reconnaissant pour son aide dans la coordination des efforts de ses disciples. Pour s'occuper des nécessiteux, il faut une équipe, une société aimante et unie. C'est ce que le Seigneur édifie parmi vous. Il vous aime pour le rôle que vous jouez, quel qu'il soit. Une preuve de sa reconnaissance est que Dieu vous permet de ressentir davantage d'amour pour les personnes que vous servez. C'est pour cela que vous pleurez lorsqu'une personne que vous avez longtemps servie meurt. Ne plus pouvoir s'occuper d'elle peut sembler être une perte plus grande que la séparation temporaire. Récemment, la semaine où son mari est décédé, j'ai entendu une femme témoigner de sa reconnaissance pour l'occasion qu'elle avait eue de le servir jusqu'à la fin de sa vie. Aucune larme n'était visible, mais son sourire heureux l'était. Un service durable et aimant est grandement récompensé, mais vous avez appris qu'il y a des limites physiques, émotionnelles et financières à ce qui est possible. La personne qui prodigue des soins suffisamment longtemps peut finir par avoir elle-même besoin de soins. Le Seigneur, qui est le maître nourricier des nécessiteux, a donné un conseil inspiré à ceux qui prodiguent inlassablement des soins par ses paroles consignées dans le livre de Mormon. Pour conserver de jour en jour le pardon de vos péchés, Je voudrais que vous accordiez de vos biens aux pauvres, chaque homme selon ce qu'il a, comme nourrir les affamés, vêtir les nus, visiter les malades, et leur apporter du soulagement, tant spirituellement que temporellement, selon leurs besoins. Mais il poursuit en mettant en garde celles d'entre vous qui pourraient ne pas vouloir admettre qu'elles en font trop et trop longtemps dans leur service aimant. Je cite, « Et veillez à ce que tout cela se fasse avec sagesse et ordre, car il n'est pas requis que l'homme, ou toute personne qui prodigue des soins, court plus vite qu'il n'a de force. Et en outre, il est nécessaire qu'il soit diligent, afin qu'il remporte ainsi le prix. C'est pourquoi tout doit se faire avec ordre. Ce conseil peut sembler difficile à appliquer quand vous devez trouver l'équilibre entre le désir de faire tout ce que vous pouvez pour aider les autres et la sagesse de pourvoir avec prudence à vos propres besoins, de manière à conserver la force de servir. Vous avez peut-être vu d'autres personnes se débattre avec ce genre de choix difficile. Un exemple de cela est le choix de vous occuper d'une personne en fin de vie chez vous ou dans un centre de soins, alors que vous êtes vous-même au bord de l'épuisement. Ce que vous savez du plan de salut peut vous guider dans des choix aussi déchirants. C'est une des raisons pour lesquelles Lucy Mack Smith a dit, avec sagesse, que les sœurs devaient acquérir de l'instruction. Cela nous aide d'avoir une conviction sûre du dessein que le Seigneur a pour chaque enfant de Dieu dans le creuset de la vie mortelle. Voilà comment il a enseigné l'essence du plan de salut à Joseph Smith le prophète, qui cherchait à comprendre ses épreuves apparemment sans fin. Je cite, « Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera d'en haut. » Notre choix d'aider au mieux quelqu'un dans les épreuves devient alors « Que devrais-je faire pour aider au mieux la personne que j'aime et sert à bien supporter ?» C'est à nous de faire en sorte qu'elle ait plus de chances d'exercer sa foi au Christ, de conserver une ferme espérance de la vie éternelle et de pratiquer la charité, l'amour pur du Christ, jusqu'à la fin de sa vie. J'ai vu des sœurs dans le royaume se concentrer de cette manière sur le Sauveur et ses desseins. Pensez aux fois où vous êtes entrés dans une salle après que la société de secours ou la primaire ou les jeunes filles s'y sont réunies. Vous ne verrez peut-être pas une image du Sauveur ou ses paroles, mais vous saurez qu'un témoignage de la réalité, de la valeur de son expiation a été ressenti au cours de cette heure. Comme ce soir. Vous ne verrez peut-être pas une image d'un Saint-Temple ou les mots « La famille peut être éternelle », mais vous pourrez voir l'espérance dans leur sourire. Et vous avez vu comme moi une sage instructrice visiteuse édifier chez une sœur en difficulté la confiance que le service qu'elle rend à quelqu'un d'autre est toujours nécessaire et a de la valeur. Des présidentes de sociétés de secours formidables trouvent des façons de permettre à celles qui ont besoin d'attention de se soucier des autres. Elles créent des occasions pour que des sœurs supportent bien leurs épreuves en prenant soin les unes des autres dans l'amour pur du Christ. Il est peut-être nécessaire pour cela d'insister gentiment auprès d'une personne fatiguée par les soins qu'elle a prodigués, de se reposer et d'accepter l'aide d'autres personnes. Les sœurs rendent cela possible en évitant de juger les personnes qui traversent des épreuves. La plupart des gens qui portent de lourds fardeaux commencent à douter d'eux-mêmes et de leur valeur personnelle. Nous allégeons leurs fardeaux en étant patients avec leurs faiblesses, en faisant l'éloge des moins de qualité que nous leur trouvons. C'est ce que fait le Seigneur, et nous pouvons suivre son exemple de nourricier suprême des nécessiteux. Nous parlons souvent de la force du cercle des sœurs de l'Église de Jésus-Christ. Nous apprenons à reconnaître que le Sauveur est toujours dans le cercle si nous l'invitons. Nous verrons de plus en plus des filles de Dieu inviter des sœurs à les rejoindre dans le cercle. Lorsque des sœurs viendront à une réunion et chercheront une place, elles entendront dire à leur mi-voix, à mi-voix, « Venez vous asseoir avec moi, s'il vous plaît. » Nous entendrons ces paroles en ce jour futur qu'a vu Lucy Mack Smith lorsque les sœurs iront s'asseoir ensemble dans les cieux. Nous ne nous préparons pas pour ce jour instantanément. Cela sera le résultat de jours et d'années passées à prendre soin les uns des autres et à nous pénétrer le cœur des paroles de la vie éternelle. Je prie pour que beaucoup d'entre nous soient ensemble dans l'avenir glorieux qui nous attend. Je vous témoigne que votre espérance en ces jours sera justifiée. Par son expiation infinie, le Seigneur Jésus-Christ a permis qu'il en soit ainsi pour chacune d'entre vous. Notre Père Céleste entend et exauce les prières pleines de foi que vous faites pour être guidé et recevoir de l'aide et pour persévérer dans votre service. Le Saint-Esprit vous est envoyé, ainsi qu'à ceux dont vous vous occupez de tout votre cœur. Vous serez fortifiés et encore inspirés pour connaître les limites de votre capacité de servir. L'Esprit vous réconfortera quand vous vous demanderez « Ai-je fait suffisamment ?» Je témoigne que le Seigneur sera avec vous et qu'il préparera et tracera le chemin pour vous dans votre service à ceux qu'il aime dans leurs besoins et leurs épreuves. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Cher Père Céleste, nous te remercions de l'occasion que nous avons eue d'être unis, nous qui sommes sœurs dans le monde entier, et d'entendre ces messages merveilleux. Nous te remercions pour ton Fils et son sacrifice pour chacune de nous. Nous te demandons de nous bénir pour que nous puissions mieux connaître l'expiation et savoir comment mieux l'appliquer. Nous te remercions pour toutes nos bénédictions et nous savons qu'elles viennent de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen.